Chapitre 22. 2 octobre 1998, 11h48. Du Gommier. Doménil. Toujours pas de réseau. Marc restait sonné par le message de Lily, inquiet, impuissant. Quelle autre alternative avait-il que foncer en aveugle dans les entrailles de Paris, presque au hasard, et lire encore le cahier de Grand-Duc? Marc disposait encore de quelques minutes avant d'arriver à Nation. Bel Air. Le métro freina, s'arrêta, vibra, s'élança à nouveau. Aucun passager. Toujours aucun réseau. Lire. Lire encore. Comprendre. Et retrouver Lily. À temps. Journal de Crédule Grand-Duc. Léonce de Carville fut victime de sa première crise cardiaque pendant que j'étais en Turquie, le 23 mars 1982, seulement quelques jours avant qu'Ünal Serkan ne dépose à mon hôtel la photographie de Lise Rose de Carville, prise sur la plage de Seyhan. Aucun rapport, donc, entre les deux événements. À vrai dire, l'infarctus de Léonce de Carville, je m'en fichais un peu. Je l'avais rencontré souvent pour l'enquête. Je crois qu'il m'accordait autant d'importance qu'à un bibelot hors de prix que sa femme se serait offert. À vrai dire, je crois surtout qu'il ne supportait pas que sa femme ait pu prendre une telle initiative, m'engager, sans lui en parler. J'étais la preuve vivante de l'échec de sa stratégie de bulldozer. Il collaborait avec moi en traînant les pieds, en souriant, en me faisant parvenir les informations que je lui demandais par des secrétaires débordés. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas fondu en larmes quand il est tombé raide sur la pelouse de la roseraie. Après tout, c'était sa femme qui me faisait l'échec, pas lui. D'accord, vous n'en avez rien à faire de mon cynisme. C'est la photo de la plage de Seyhan qui vous intéresse. Vous voulez connaître le fin mot de l'histoire? Ok, j'y viens. Ünal Serkan était une véritable anguille. Je l'avais joint plusieurs fois au téléphone. Je lui avais déjà offert une fortune, 250 000 livres turcs, pour disposer de l'original de la photographie de la plage de Seyhan, du négatif. L'affaire traînait déjà depuis une semaine. Je sentais bien que Serkan voulait gagner plus, voir jusqu'où pouvaient monter les enchères. Le 7 avril, tôt le matin, il finit par me donner rendez-vous sur l'avenue Kennedy, au pied de Topkapi, face au Bosphore. C'était un petit type au geste brusque, avec un regard divergent, un œil louchant sur l'Europe et l'autre vers l'Asie. Nazim m'accompagnait pour traduire. Serkan voulait un acompte, 50 000 livres, sans contrepartie, sinon il vendait le cliché à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre? À qui? Au vitral? Il nous prenait pour des pigeons. Je n'ai rien lâché, bien entendu. Sans négatif, pas une livre turque. Lui non plus n'a rien concédé. On a failli en venir aux mains, là, juste devant la statue d'Atatürk. Nazim a dû nous séparer. En rentrant à l'hôtel, j'avais un sentiment bizarre. Pas du tout comme si je venais de commettre une monumentale erreur, tout au contraire. Comme si je l'avais échappé belle. J'ai téléphoné en France pour qu'on m'envoie au plus vite tous les journaux, tous les magazines qui avaient publié des articles sur l'affaire du Mont Terrible. J'ai tout reçu 3 jours après, le 10 avril. Moins d'une heure plus tard, j'avais la réponse. L'espèce de vase bleu immonde sur ma table de nuit explosa contre le tapis vermeil pendu au mur de ma chambre. Ünal Serkan n'avait pas cherché bien loin. Le Paris Match, du 8 janvier 1981, avait publié une série de photographies de Lily dans son berceau, à la pouponnière de l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Sur l'une d'elles, Lily adoptait exactement la même pose que sur la photo de la plage en Turquie, théoriquement prise 1 mois plus tôt. Penchée un peu sur le côté, souriante, la jambe droite repliée, le bras gauche sous sa tête, une position identique, jusqu'à l'œil qui cligne et l'écartement des doigts. La photo d'Ünal Serkan était un faux grossier. Le travail du faussaire n'avait pas été difficile. Il avait simplement remplacé les draps du berceau par une serviette de plage de la même couleur et de la même texture. Pour le reste, une simple photo de sa copine avait dû faire l'affaire. J'avais envie d'arracher tous les tapis au mur de ma chambre, ces tapis turcs qu'on voulait nous vendre à chaque fois qu'on faisait un pas dehors dans cette putain de ville d'Istanbul. Nous vendre des tapis, ou de la viande grillée, ou toutes sortes d'objets, leurs maisons entières posées en pièces détachées sur le trottoir, ou même vendre leurs gosses, leurs femmes, eux-mêmes, un bras, une jambe, un organe, un cœur. Putain de peuple d'épicier! J'ai tourné en rond 2 heures dans la chambre. Je me suis calmé, progressivement. Je n'en voulais même plus à Ounal Serkan, au final. C'était de bonne guerre, c'était bien joué. Cela aurait pu marcher. Une arnaque à 250 000 livres turcs pour un simple photomontage. Je pouvais comprendre. Je ne l'ai jamais revu, cet Ounal Serkan. J'avais d'autres urgences. J'ai passé les semaines suivantes en Turquie à échafauder d'autres hypothèses. Au café des Ange, Nazim les trouvait toutes plus fumeuses les unes que les autres. Il avait raison, le narguilé sans doute. J'avais fini par y prendre goût, malgré moi, au trépidant rythme stambouliote. Narguilé, raki et l'inévitable keïf, la pose thé servie sur un plateau d'argent, dans des gobelets de verre ouvragés qui vous brûlent le bout des doigts, entre deux questions folles. Nazim, et si Lise Rose n'était pas la fille d'Alexandre de Carville? Et alors, soupira Nazim, tout en soufflant sur son thé. Qu'est-ce que ça changerait, Clédoul? Tout. Imagine que, pour une raison ou une autre, Alexandre de Carville ne soit pas le père de Lise Rose. Que Véronique ait eu un amant aux yeux bleus. Ça inverserait les probabilités en termes de génétique, de couleur des pupilles, de toutes les ressemblances que l'on recherche, tu ne crois pas? Un amant, Clédoul. Nazim posa sur moi un regard brun coquin et amusé, celui qui devait faire craquer sa petite Ayla. On prétend que pour les détectives privés, les affaires d'adultère, c'est la corvée, l'alimentaire, la lie du métier. Foutaise. Si l'on veut être sincère, entrer par effraction dans la vie sexuelle des clients, cela reste l'un des bons côtés du métier. Je n'eus aucun mal à découvrir qu'Alexandre de Carville n'était pas un modèle de vertu. C'est un euphémisme. Je m'en doutais un peu. Quand on a le pouvoir, le fric, la jeunesse, dans une ville où la pratique du harem est multimillénaire, avec une femme qui garde les enfants à 500 km de votre lieu de travail, j'ai réussi au fil du temps à mettre au jour une demi-douzaine d'aventures extra-conjugales du bel Alexandre. De façon étrange, les femmes ont tendance à avouer assez facilement leurs aventures avec un amant décédé. Et plus encore, quand la femme de l'amant est morte, elle aussi. Bizarre, les sentiments. Alexandre de Carville faisait dans le classique. La secrétaire sautait sur son bureau de verre au siège de l'entreprise à Istanbul, dans le quartier de Yenikapi. J'ai vu les deux, le bureau de verre et la secrétaire, élégant et froid. Il avait aussi retrouvé la jeunesse pendant 3 mois avec une stambouliote incendiaire à peine majeure qui se baladait dans le quartier de Galata avec une jupe au ras des fesses et le nombril à l'air sous le regard inquisiteur des femmes voilées de noir. Elle le traînait de boîte en boîte. Je l'ai retrouvée. Elle est mariée, 2 enfants. Pas encore le voile, mais plus de mini-jupe. Je passe sur les aventures du hammam, les danses du ventre avec des quasi-professionnels de l'amour, souvent accompagnés de clients d'ailleurs. D'après mes recherches, son amante la plus fidèle fut Pauline Colbert, une Française, genre working girl, célibataire, responsable des ventes chez Total, qui, selon ses propres dires, avait été la dernière à faire l'amour à Alexandre de Carville, le 22 décembre 1980, soit le jour même du départ de la famille dans l'Airbus 5403. Visiblement, avoir fait jouir plusieurs fois, me précisa-t-elle, un type qui allait finir calciné dans un avion moins de 24 heures plus tard, l'excitait terriblement, a posteriori. Elle m'avoua sans aucune pudeur qu'Alexandre était un super coup et qu'elle avait été jusqu'à lui tailler une pipe dans le sérail de Topkapi à la barbe des gardiens du palais. La fille avait un visage quelconque posé sur un corps assez bandant. J'ai même perçu qu'en insistant un peu, elle aurait bien ajouté un détective privé à son tableau de chasse. Sur le coup, je ne me suis pas senti l'âme d'un faisan. D'où une première question. Véronique de Carville était-elle au courant des frasques de son mari? Difficile de penser le contraire. Une seconde question s'imposait alors, la principale. Lui rendait-elle l'appareil? Je n'en ai trouvé aucune preuve. Tout semblait montrer que Véronique était passablement déprimée, vivant presque toujours toute seule, avec ses filles, Malvina, puis Lise Rose. Elle recevait peu, je vous l'ai dit. J'ai essayé de repérer dans son entourage des candidats au titre d'amant officiel et de père potentiel de Lise Rose. Il y avait bien le fils du jardinier, un gamin beau comme un dieu qui bêchait torse nu sous les persiennes de Véronique, gentil, le genre à pouvoir faire fantasmer une occidentale déprimée, lectrice troublée de l'amant de Lady Chatterley. Mais le gamin ne m'a rien avoué. Et en plus, il possédait une paire d'yeux noirs intenses qui ne m'arrangeait pas d'un point de vue génétique. Je me suis concentré sur la recherche d'yeux bleus dans les parages de la villa des Carville à Seyanne. Ils étaient rares. J'en ai trouvé trois, dont impossible, moyennement crédible, un bel Allemand à Katogan qui louait des pédalos dans les environs. J'ai pris des photos du type. Je guette depuis les ressemblances futures avec Lily au fil des années. Au jeu des sept ressemblances, rien d'évident pour l'instant. Tant mieux. Je ne me voyais pas expliquer à Mathilde de Carville qu'elle m'avait payé une fortune toutes ces années pour que je lui apprenne qu'effectivement Lise Rose avait bien survécu au crash, mais n'était pas leur petite fille, pas une de Carville, mais la fille d'un loueur de pédalos teutons. Pendant ce temps-là, en France, le prix de la gourmette dans les petites annonces était passé à 45 000 francs, et aucun poisson n'avait encore mordu, pas même un canular à la turque. Pas facile à falsifier, il faut bien le dire, une gourmette en or massif poinçonnée chez Tournaire. Dans la série « Ne négliger aucune piste », je continuais d'emmerder Nazim entre deux bouffées et trois gorgées brûlantes. Nazim, et si le crash de l'Airbus 5403 n'était pas dû au hasard? C'était un midi. Le café des Anges était bondé de Turcs encravatés sifflant leur raki pendant l'heure de la prière. Nazim sursauta, faillit renverser le plateau que le serveur apportait. « Mais tu cherches quoi, la Clédoul ?»« Eh bien, quand on y repense, on n'a jamais complètement élucidé les causes de l'accident sur le Mont Terrible. La tempête de neige, l'incompétence du pilote, tout cela à bon dos, tu ne trouves pas? Pourquoi ne pas imaginer autre chose ?»« Je te fais confiance, précise. Un attentat, par exemple. Un attentat terroriste. » La moustache de Nazim vibra. Contre qui? Les Carville? Pourquoi pas? Un attentat visant leur famille, Alexandre, l'héritier unique? Mon raisonnement n'est pas complètement stupide. Alexandre travaillait sur un projet à haut risque, le pipeline Bakou-Tbilissi-Seyan, qui passe en plein milieu du Kurdistan. Alexandre négociait directement avec le gouvernement turc pendant que le PKK multipliait ses attentats sur tout le territoire. Nazim m'éclata de rire. Ah, les Kurdes, ben voyons, vous voyez des terroristes partout, vous, en Occident, hein? Les Kurdes, une bande de paysans qui... Nazim, je suis sérieux. La partie des travailleurs du Kurdistan n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, de voir l'or noir passer sous son nez sans s'arrêter sur son territoire. Il devait encore moins apprécier l'hypothèse d'une invasion du Kurdistan par les bulldozers de Carville, encadrés de chars de l'armée turque. D'accord, Clédoul. Mais de là à aller faire sauter un Airbus avec le fils Carville à l'intérieur. D'ailleurs, au final, ça changerait quoi, un attentat contre les Carville? Pourquoi pas une histoire d'espionnage tordu? Lise Rose enlevée avant le départ de l'Airbus, ou des sosies qui prennent l'avion à la place des Carville, mis au courant du projet d'attentat? Nazim explosa encore de rire, me donna une grande tape dans le dos et commanda deux autres rakis. Nous passâmes la nuit à regarder passer les bateaux sur la Corne d'Or et à parler à n'en plus finir de l'affaire. C'était de loin les plus beaux moments de cette enquête, quand j'y repense. Les premiers mois, en Turquie. Mes meilleurs souvenirs. Ensuite, À partir de l'été 1982, les séjours en Turquie se sont espacés. Le 7 novembre 1982, j'étais pourtant encore en Turquie depuis 15 jours. J'ai appris la nouvelle 3 jours après, par Nazim. Mathilde de Carville n'avait même pas eu le tact de me prévenir. Pierre et Nicole Vitral avaient été victimes d'un accident au Tréport, un peu avant l'aube, dans la nuit du samedi au dimanche. Pierre ne s'était jamais réveillé. Nicole luttait encore entre la vie et la mort. L'hypothèse de l'accident vu d'Istanbul était difficile à croire. Déformation professionnelle ou conviction intime. Dans ma chambre de l'hôtel Ascoc, j'ai eu brusquement la frousse. Une frousse terrible, brutale. Pour la première fois, je me rendais compte que continuer de travailler sur cette affaire, pour les Carville, pendant des années de ma vie, c'était perdre ces années, ainsi que toutes celles qui me resteraient ensuite. J'ai continué pourtant. 2 octobre 1998, 11h52. Nation. Marc leva les yeux, son dos perlé de sueur. C'est ici qu'il devait changer pour attraper le RER. Marc se retrouva sur le quai, le cahier à la main, essoufflé, hagard. Il se déplaça vers le banc en face de lui, referma le cahier et ouvrit son sac, sonné. Le 7 novembre 1982, cette date était restée imprimée dans sa mémoire. Il l'avait si souvent lue pendant toutes ces années, gravée sur la tombe de son grand-père, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire pendant que sa grand-mère pleurait. Elle se rendait tous les jours au cimetière. Les jours où il n'avait pas d'école, Marc suivait, poussant le landau où dormait Lily. C'était loin. Il fallait monter une très longue côte. Nicole toussait à n'en plus finir. Le 7 novembre 1982. Marc marcha un peu au hasard dans le couloir du métro, recherchant la ligne A parmi les directions qui s'entrecroisaient dans l'immense station. Petit à petit, il reprenait son souffle, réfléchissait. Le plan du RER défilait dans sa tête. Direction Vincennes, Noisy-le-Grand, Bussy-Saint-Georges. Il ralentit le pas. Il ne fallait pas qu'il aille trop vite, qu'il se laisse entraîner par la spirale des événements, le cahier de Grand-Duc et ses révélations, le meurtre du détective, la disparition de Lily, l'accident de ses grands-parents. L'air qui se glissait dans les longs couloirs glaçait son dos trempé. Il n'était pas stupide. Il ne devait pas ainsi se jeter dans la gueule du loup. Pas sans prendre ses précautions, en tout cas. Le plan du métro défila à nouveau dans sa tête. Marc esquissa un sourire. Oui, il était beaucoup plus intelligent de se diriger en sens inverse, direction la Défense. Une seule station de plus. Quelques minutes de perdu, à peine, suffisantes pour mettre à l'abri ce qu'il avait appris. Moins de 2 minutes plus tard, Marc se retrouvait dans la cohue de la gare de Lyon. Il se laissa porter par le tourbillon de voyageurs dans les couloirs interminables. D'immenses images défilaient pour vanter les prochains films à l'affiche. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux « Il faut sauver le soldat Ryan ». Les derniers livres, les concerts. Marc tourna à peine la tête. Une affiche sombre annonçait « Charles-Élie Couture en concert au Bataclan ». Ses pensées s'envolèrent vers Lily. « Oh, libellule, toi, t'as les ailes fragiles. Moi, j'ai la carlingue froissée. » Marc sortit son téléphone. Il captait du réseau, enfin. Il composa le numéro de Lily. Cette sonnerie, comme d'habitude. Le répondeur. « Lily, attends-moi. Ne fais pas de conneries. Rappelle-moi. Je suis sur la piste. Je vais trouver. » Trouver quoi ? Ne pas hésiter. Avancer. Marc arriva au départ des grandes lignes. Les TGV Orange étaient alignés comme sur la ligne de départ d'un sprint de 500 km vers le sud. Les consignes se situaient un peu sur la droite, derrière le point presse. Marc ouvrit une lourde porte d'acier et enfonça son Eastpak à l'intérieur du cube gris. Il n'allait pas se rendre à la roseraie, chez les Carville, avec dans les mains le cahier de Grand-Duc. C'était à Lily que Grand-Duc l'avait confié, et pas aux grands-parents Carville. Il y avait forcément une raison à cela. Il allait rencontrer les Carville, discuter, négocier. Ensuite, il aviserait. Il fallait entrer un code, 5 chiffres. Marc tapa, sans réfléchir, 7, 11, 82. La consigne claqua dans un bruit sec. Marc souffla. Un kiosque vendait des sandwichs et des boissons. Il fit la queue 2 minutes et acheta un jambon beurre et une bouteille d'eau. Il avait pris la bonne décision, se séparer temporairement de ce cahier, même s'il brûlait d'envie de lire la suite, la version de Grand-Duc sur l'accident du 7 novembre 1982. Marc avait 4 ans à l'époque, juste de vagues souvenirs. Les mots du cahier de Grand-Duc étaient pourtant explicites. L'hypothèse de l'accident vu d'Istanbul était difficile à croire. Déformation professionnelle ou conviction intime. Marc voulait savoir, tant pis. Il fit brusquement demi-tour, retourna à la consigne, tapa le code. 7 11 82. Marc fouilla avec nervosité le sac, sortit le cahier. Les pages défilèrent. Marc survolait les lignes. C'était perdre ces années, ainsi que toutes celles qui me resteraient ensuite. Pourtant, j'ai continué. C'était là. Marc fit glisser quelques pages entre ses doigts, puis d'un geste sec, les arracha au cahier. 5 feuilles, celles qui suivaient la page où il avait arrêté sa lecture. L'accident de ses grands-parents, cette nuit-là, au Tréport, raconté par Grand-Duc. Marc plia les feuillets en 4, les glissa dans la poche arrière de son jean, referma la porte de la consigne, puis s'enfonça à nouveau dans le dédale des couloirs de la gare de Lyon.